Bienvenue dans Présidentiel 2023. Bonjour Michel.
Bonjour Kelly.
Aujourd'hui, nous recevons le candidat numéro 17.
Il s'appelle Théodore Ngoy. Il est candidat indépendant sur la liste de la Commission électorale nationale indépendante.
Monsieur Théodore Ngoy, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs internautes des Radio Capi qui nous suivent en ce moment. Vous allez leur parler de votre programme, un programme chiffré à combien?
Non, mais ce serait faux, les chiffres. C'est justement ça, les points de départ faussés par les journalistes et par les acteurs politiques qui se permettent de donner des chiffres. Dans un pays où l'économie est occupée, les ressources sont détournées, à la fois par les prédateurs internationaux qui ont placé le pays dans un état de non-état et par ceux qui ont accès au pouvoir et qui mettent la majorité de l'essentiel des ressources dans leur poche. Donc, non, le combat pour la restauration du Congo ne commence pas par là.
On va y revenir, Monsieur Théodore Ngoy. Nous allons aborder avec vous, dans cet entretien, des questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et social, à la justice, ainsi qu'à celles liées à la cohésion nationale. Mais avant d'aborder tous ces aspects, dites-nous pourquoi vous voulez briguer la magistrature suprême pour les 5 prochaines années.
Bon, le problème du Congo n'est pas un problème économique. C'est un problème d'homme. Il nous manque un homme à la tête du Congo. Comme on dit dans une de nos langues nationales, Kuchinu kwa Jean-Joula, Weba, Weba ou Ikale, Mutumbe. Donc, il faut que celui qui dirige le Congo soit un Congolais de bon cœur, un homme honnête et intègre, qui va d'abord travailler pour changer l'homme, changer la mentalité. Le respect des règles nous permettra de réaliser la cohésion nationale, de réaliser le développement. Je vous donne un petit exemple. Je suis président de la République, mais quand je vais sur la route, il y a une autre autorité, c'est l'agent de roulage. Lorsqu'on respecte cet agent de roulage, où les feux rouges, on crée, n'est-ce pas, l'harmonie sur la route. Mais regardez comment on roule aujourd'hui sur la route. Vous avez un motard qui vous sort de votre droite ou de votre gauche. Il y a des accidents tout moment, il y a des blocages. Parce que les gens ne comprennent pas que notre promotion collective passe par le respect des règles. Et ces règles-là concernent non seulement le respect du patrimoine commun, le respect et la protection de nos frontières, le respect et la protection des droits et libertés de chacun, mais aussi le respect de l'autorité. Lorsqu'on s'attaque à l'agent de roulage sur la route, on peut même le frapper, eh bien, le pays est malade. Ça veut dire que l'on ne va respecter aucune autorité économique, aucune autorité monétaire, aucune autorité administrative. Chacun va faire selon son intérêt. Et c'est ça le problème du Congo. Et je suis l'homme qui, ayant la compétence, je suis docteur en droit, professeur d'université, professeur ordinaire. La compétence technique, compétence intellectuelle, mais aussi la compétence morale. Le Seigneur m'a préparé, m'a fait souffrir. J'ai eu l'occasion d'être intéressé par les différents présidents, y compris celui que je vais remplacer, pour exercer des fonctions. J'ai posé des conditions. Et in fine, je n'ai plus exercé ces fonctions parce que ma condition, c'est que je ne peux exercer une fonction que si je dois réaliser les objectifs de justice, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Alors, puisque je ne peux exercer ces fonctions que dans le respect des règles du droit, la justice, il faut que moi-même je sois président de la République pour commencer par cultiver l'esprit du respect des règles qui va traverser, n'est-ce pas, toutes les actions que nous allons entreprendre jusqu'à la fin du premier mandat. Et les gens verront les résultats.
Alors parlons gouvernance, Maître Théodore Ngoy. La RDC est très souvent mal cotée sur le plan de la gouvernance par rapport à d'autres pays. Si vous analysez les différents rapports, Mont Ibrahim, Doing Business, Banque mondiale, Transparency International, vous vous rendez compte que la RDC occupe toujours la place de la queue dans la liste sur la gouvernance. Comment comptez-vous changer cette situation ?
Déjà, je vous ai parlé de mentalité. Figurez-vous que la non-gouvernance a été conçue et organisée dans l'acte général de Berlin. Parce que le Congo a été regardé comme le coffre-fort des ressources minérales pour l'Occident. Ils ont donc décidé qu'aucun pouvoir souverain ne serait établi sur le Congo. Le pays serait soumis au principe de liberté de navigation, liberté de commerce, pour toutes les nations qui s'étaient réunies à Berlin pour créer par une fiction juridique l'État indépendant du Congo, en fait un non-État, ce qui fait que la bonne gouvernance n'a pas été la pensée de créateur de l'EIC, mais c'est la non-gouvernance qu'ils ont instituée. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas d'un homme comme je suis là, un homme instruit, un homme incorruptible, un homme honnête, pour imposer des règles du respect de la bonne gouvernance. Je vais les imposer. Je vais cultiver cela, en commençant par moi-même.
Et concrètement, vous comptez faire quoi? Quelle action comptez-vous mener une fois au pouvoir?
Bien, je viens de vous dire qu'il faut changer la mentalité des Congolais, imposer la culture du respect des règles établies. Les règles selon lesquelles les ressources sont constituées, elles sont dépensées, ces règles-là ne sont pas respectées aujourd'hui. Laissez-moi vous donner une anecdote. Je suis président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. J'ai été invité pour représenter la RDC à Cotonou, au Bénin. Bien, j'ai eu un ordre de mission et on m'a donné des frais de mission. J'arrive à Cotonou, je suis pris en charge. Je ne paye pas l'hôtel, je ne paye pas les transports, je ne paye pas la nourriture. La loi, une circulaire en matière financière prévoit que si on vous donne des frais de mission, c'est-à-dire l'argent de l'État, l'argent public, vous allez à l'étranger, vous êtes pris en charge, vous rendez, je crois, les trois quarts. Mais je suis revenu, j'ai rendu ça. Mais les agents s'étonnaient. Ils disaient, mais pasteur, pourquoi? Il y a des fonctionnaires de l'administration qui s'occupent de ces projets, dont l'un m'a dit, mais Yosa Bukulaka. Vous voyez? Parce qu'ils étaient étonnés que je rendais l'argent. Ce sont ces règles-là, concrètement. Il y a des règles que l'on va imposer dans la gestion. On va assainir, on va moraliser la gestion du cadre macroéconomique.
Bonne gouvernance, oui, mais tant qu'il n'y a pas de sécurité au pays, c'est difficile de bien gouverner. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur?
Vous avez raison.
Oui. Aujourd'hui, la RDC fait face aux problèmes sécuritaires. Beaucoup des groupes armés locaux et même étrangers pullulent dans la partie orientale de la RDC, mais aussi dans la partie ouest, hein, avec les phénomènes Mobondo aujourd'hui. Si vous êtes élu président de la République, comment comptez-vous mettre fin à ce phénomène, à restaurer la paix dans tous ces coins où il y a l'insécurité?
Vous avez raison, c'est le préalable essentiel avant toute relance économique dans les différents domaines de transport, des domaines de gestion de ressources minérales, parce qu'effectivement, à l'ombre du génocide rwandais, on a institué ici une économie de l'insécurité. Insécuriser le pays, empêcher l'établissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous risquons d'ailleurs d'aller aux élections avec un pays morcelé, pratiquement, occupé par des forces étrangères. C'est un plan qui a été conçu à la suite donc du génocide. On a amené les Hutus à travers l'opération Turquoise avec des armes. On a créé des groupes armés. Qui donne des armes à ces groupes armés? On a posé la question à monsieur le secrétaire général des Nations Unies, qui a osé dire que le M23 serait mieux armé que les forces des Nations Unies. Vous vous rendez compte? Donc, vous avez raison, il faut commencer par mettre fin à cette occupation. Et il y a la voie diplomatique, mais il y a aussi la voie de la réaction légitime. Et cette réaction, nécessite qu'en tant que commandant en chef de l'armée, je mobilise l'armée. Est-ce que vous savez que c'est notre armée, la force publique, a gagné des guerres, hein, dans la guerre mondiale, a fait tomber des forces allemandes, notre armée ici.
Ça, donc, c'était avant.
Oui, mais c'est pourquoi maintenant, pourquoi pas maintenant? Parce que il y a ces problèmes de mentalité, de culture. C'est-à-dire, on n'a pas appris à un militaire que lui, il a donné sa vie pour défendre l'intégrité du territoire, la sécurité du territoire, la souveraineté dans l'intérêt de la population. On n'a pas appris aux policiers qu'il doit défendre les citoyens, sa liberté, sa vie, ses biens. On ne leur a pas appris qu'ils doivent être prêts à mourir. Quand je suis entré pour la première fois au camp Kimbembe des paracommandos, c'était écrit « Tokowa pona ekolo ». Donc mourir pour le pays, c'est une notion qu'il faut faire passer. Pourquoi elle ne passe pas, cette notion-là? Parce que des dirigeants s'enrichissent à vie d'œil, mais les éléments armés n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, n'arrivent pas à se nourrir. Ils achètent même la tenue eux-mêmes. Je pense que vous le savez en tant que journaliste. Le policier doit acheter lui-même sa tenue. Il se promène pendant une année avec une tenue usée. Et il est obligé de rançonner la population. Je vais justement, comme je l'ai dit, travailler sur l'esprit, mobiliser les personnes en veillant dès le départ à ce que tout l'argent qui va dans les poches des dirigeants, les dirigeants se sont enrichis. Vous avez entendu parler des détournements, non? De 400 millions, de 500 millions, de même plus que ça. Alors ça, c'est ce dont on nous parle. Mais ce dont on ne nous parle pas, c'est combien qui est dilapidé, parfois dans des voyages inutiles, qui coûtent très cher à la République. Moi, je vais mettre fin à tout ça, à cette gabegie financière, à cette vie outrancière, vie publique outrancière. Ben, je vais me contenter de ce qui est nécessaire pour ma vie de président de la République. Je vais rendre aux Congolais, sous forme d'emploi, sous forme de salaire, sous forme d'accès à l'eau, à l'électricité, sous forme de routes, de dessertes agricoles, de routes qui vont désenclaver le pays. Je vais leur rendre tout cet argent qui est amené en dehors du pays par les prédateurs nationaux, les prédateurs internationaux. Et à l'armée, je vais redonner la foi, n'est-ce pas, en la défense de la nation, en me faisant voir à l'élément armé qu'il est considéré d'abord par la nation, qu'il a la reconnaissance de la patrie, lui et sa famille, lui et ceux qui tombent sur le champ de bataille, eh bien, les gens vont être déterminés, comme en Israël, par exemple, ou en Palestine, vont être déterminés à défendre leur droit à l'existence au prix de leur propre vie. Je voudrais vous dire, vous savez, je suis le candidat numéro 17, n'est-ce pas? Et le 17e jour, Dieu a décidé, le 17e jour de l'an 60 de la vie de Noé, ça c'est dans Genèse au chapitre 7, le verset 11, Dieu a ouvert toutes les sources qui ont fait jaillir les eaux de pluie qui sont tombées sur la terre. Et au chapitre 8, au verset 4 de Genèse, la Bible nous dit que le 17e jour, l'arche est arrivée sur la montagne. Quand vous lisez ça en anglais, on dit « the ark came to rest on the mountains ». Je suis le 17e candidat. Avec moi, le Congo va être placé par Dieu sur la montagne de paix. Dieu va nous aider à rétablir la paix. Nous allons faire partir les M23. Nous pourrons même, si lécher, amener la guerre au Rwanda et arrêter M. Kagame. Nous avons le pouvoir de le faire.
des ambitions qui exigent une économie forte pour le pays. Alors dites-nous, le développement économique de la RDC ne reflète pas ses potentialités naturelles. Si vous voyez la diversité des richesses minières, forestières, hydrauliques de la RDC, il y a le jour et la nuit face à la pauvreté de sa population. Quelle formule magique comptez-vous mettre en place pour changer la donne?
Il n'y a pas de formule magique. Certes, il y a la grâce de Dieu qui est sur moi et qui sera sur moi. Il faut mettre fin à la prise en otage de nos ressources par les groupes armés dont fait partie l'armée rwandaise. Ces armées sont au service des prédateurs internationaux et se sont associées aux prédateurs nationaux. D'une part. D'autre part, il y a ceux qui gouvernent le Congo qui s'enrichissent, qui détournent. Donc il faudra d'abord commencer par mettre fin à cette prise en otage pour pouvoir mobiliser les ressources, investir. Regardez, quand j'étais candidat gouverneur du Katanga, j'avais dit la chose suivante. Je vais prendre les ressources du Sud pour les investir dans les voies ferroviaires, les voies maritimes, les voies fluviales, les voies lacustres, pour évacuer les richesses qui pourrissent au nord. Vous savez, vous et moi, nous mangeons le riz qui est importé. C'est pas normal. Nous avons le riz de Bumba. Où est-ce qu'il est passé? Et il n'y a pas que Bumba. Même au Katanga, il y a moyen de produire du riz dans toutes les provinces. Nous avons, nous mangeons, vous et moi, ce que nous achetons dans les supermarchés qui n'appartiennent pas aux Congolais. Hein. Nous achetons les mangues, nous achetons les pommes, nous achetons... Alors que tous ces fruits pourrissent à l'intérieur du pays, notamment au Katanga. Nous importons les poissons alors que nous avons 12 couches de poissons, n'est-ce pas? Sur le lac Tanganyika. Et jusque-là, on n'exploite qu'une couche. Il n'y a pas d'organisation de la pêche. Il y a eu des ministres de la pêche. Je ne sais pas ce que ces ministres ont fait. Il y a eu des ministres de l'agriculture, pêche et élevage. Mais je n'ai pas vu où on a organisé l'agriculture, on a organisé la pêche, on a organisé l'élevage. Donc, il y a moyen pour nous de mettre d'abord la main sur les ressources qui nous échappent. Les ressources minérales, les ressources forestières, les ressources de la faune, de la flore, etc. Et il faudra justement mettre la main aussi sur les ressources financières. Les régies financières récupèrent notre argent, mais cet argent va où? La SNEL, par exemple, elle vend notre énergie électrique à l'Afrique du Sud, au Zimbabwe, je crois, à la Zambie. Mais où passe l'argent? Pourquoi on a toujours un matériel vétuste? La régie des eaux, pourquoi un matériel vétuste? Pourquoi il n'y a pas d'adduction d'eau, n'est-ce pas, pour les besoins industriels, mais aussi pour les besoins domestiques? Mais c'est tout cela que nous allons faire.
Vous avez parlé des détournements tout à l'heure, pasteur Théodore Kongori. Si la justice ne fait pas son travail, le détournement va continuer et ça sera un manque à gagner pour la RDC. Parlons justement de cette justice qui est décriée aujourd'hui par beaucoup, beaucoup de Congolais. Alors, que comptez-vous faire pour rendre cette justice véritablement indépendante et au service de tous?
Le président de la République sortant, et qui va certainement sortir, a avoué son incompétence face à la destruction du pays par la justice. Il réunit les magistrats. Et il lui a dit, je cite, « La justice élève une nation, mais dans notre pays, la justice détruit la nation congolaise. » Or, qui est magistrat suprême? Qui nomme? Qui révoque sur proposition du Conseil supérieur de magistrature? Qui ordonne, qui prend par ordonnance des mesures de promotion des magistrats? Quelle est la qualité des magistrats? Quel est le comportement des magistrats aujourd'hui? Il y a des décisions injustes qui sont prises par nos magistrats et qui sont cautionnés par les pouvoirs en place. Notre contrat de société, la Constitution, portée par la Constitution, prévoit les formes dans lesquelles une personne peut être arrêtée et poursuivie. Mais nous avons vu qu'on a arrêté un collaborateur du du candidat numéro 3 à l'aéroport en violation de toutes les règles. Nous avons vu qu'on a arrêté Franck Diongo en violation de toutes les règles. Nous avons vu plusieurs personnes être amenées à Makala et qui y sont jusqu'à aujourd'hui en violation de toutes les règles. Donc c'est l'autorité en place qui n'a pas été compétente. Moi, je ne suis pas seulement docteur en droit et professeur ordinaire en droit, mais je suis avocat et je suis conseiller à la Cour pénale internationale. Donc je comprends très bien ce qu'il faut faire pour rendre cette justice efficace. D'abord, l'homme en question. Il faut taper très fort sur l'homme. La sanction a été absente longtemps ici dans notre pays, même dans l'enseignement où je suis. Donc lorsque les magistrats sauront que Théodore Ngoï est président de la République, il y aura un changement de mentalité. Tous les Congolais, tous, ils savent que le président Théodore Ngoï, président de la République, les magistrats seront sanctionnés s'ils violent la loi, s'ils se font corrompre. Et il n'y aura pas du tout, n'est-ce pas, du temps pour un magistrat de faire cela.
Alors, à vous entendre parler, le principal problème de la RDC, c'est un problème d'homme, un problème d'éducation. Alors, comment se présente votre projet de société en ce qui concerne l'éducation nationale, l'enseignement des bases universitaires, mais aussi le métier?
On a détruit l'enseignement en instituant et en privilégiant l'enseignement privé. Au détriment de l'enseignement public. L'école publique n'est pas organisée aujourd'hui. Déjà, la création ou l'institution de l'enseignement privé au détriment de l'enseignement public a causé beaucoup de tort. On a négligé l'enseignant qui est le socle. J'ai appris cette anecdote que Hitler a refusé que les enseignants entrent en guerre. Il a dit, nous perdons la guerre, c'est vous qui allez expliquer à la jeunesse, qui allez former l'opinion, nous gagnons la guerre, c'est encore vous qui allez entraîner la population dans la mobilisation pour la reconstruction. Donc l'enseignant est celui qui a formé le président de la République que je vais devenir, et celui qui a formé les députés, et celui qui a formé tout le monde. Mais alors, vous ne les payez pas. J'ai suivi dans le discours du président de la République sortant, il dit, sans rire, hein, il dit qu'il a augmenté le salaire de l'enseignant, qui était de 1500 quelque chose, il a amené à 4000 quelque chose. Or, lorsqu'on fait la conversion au taux du jour par rapport au dollar, ben c'est même moins. C'est ce qu'il donne à l'enseignant aujourd'hui, c'est même moins que ce que l'enseignant recevait avec les 150 000 francs, les taux de dollars étant à cette époque plus bas, lui permettant d'avoir un peu plus. Mais en tout cas, c'est un salaire de misère que l'on donne à l'enseignant de l'école primaire, à l'enseignant de l'école secondaire. Moi-même, je suis enseignant à l'école, à l'université, mais je n'ai pas grand-chose. Regardez, je suis professeur ordinaire, mais je touche moins de 1 000 dollars, tandis que les députés auraient 21 000 dollars, les députés que je suis censé avoir formés. Donc, il faut commencer d'abord par là, révaloriser la fonction enseignante, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il faut absolument imposer des règles qui forment l'élite. C'est pas tout le monde qui va aller à l'université. Il faut favoriser la formation technique de certains. Troisièmement, il faut absolument revoir le programme d'enseignement. Donc, le programme de l'éducation va nécessiter qu'un budget conséquent soit affecté à l'éducation, qui est négligé aujourd'hui.
Quelle place vont occuper les questions liées à la santé dans votre gouvernement, si vous êtes élu président de la République?
Mais c'est prioritaire. Nous devons d'abord reconstruire les structures de santé, et créer des zones de santé avec des structures et l'accès aux soins de santé. Mon fils a été dernièrement malade. Et j'ai fait une heure entre le moment où le médecin l'a reçu dans un hôpital de la ville ici et le moment où j'ai pu entrer avec lui dans un labo. Parce qu'on voulait savoir, il faisait une très forte fièvre. On a mis très longtemps. Et lorsque finalement on s'est aperçu que c'était moi qui venais avec mon fils, on m'a favorisé, entre guillemets. Je suis entré là et la dame qui me recevait me dit, nous ne pourrons vous donner le résultat que dans 3 jours. J'ai dit, mais vous voyez que mon fils est gravement malade et que le médecin a écrit là-bas urgent. Ben, je vous avoue que j'ai dû l'encourager à faire vite et aller remettre des tests à ceux qui devaient faire le travail. Et donc, il y a un problème de prise en charge des malades, prise en charge immédiate. Ici, en ville, déjà dans les hôpitaux qui existent, mais à l'intérieur, où n'existe pas d'hôpitaux, il faut en créer, il faut créer des structures, il faut... Nous avons beaucoup de médecins qui sont formés, qui traînent dans la ville, qui sont chômeurs. Il faut créer les conditions pour que ces médecins acceptent d'aller travailler à l'intérieur. Il faut évidemment équiper les hôpitaux. Il faut créer aussi les conditions financières qui permettent à toute personne d'accéder aux soins de santé immédiatement.
Alors la toute dernière question, nous sommes déjà dans le temps. De plus en plus, des appels à la cohésion nationale sont lancés, tant par les organisations nationales qu'internationales. Durant les 5 prochaines années, si vous êtes élu président de la République, que comptez-vous faire pour renforcer cette cohésion nationale et rendre le Congo beaucoup plus uni et indivisible?
Il faut dire que le séparatisme a beaucoup prospéré sous Félix Tshisekedi. Déjà, la plupart des personnes qui sont dans son entourage et qu'il nomme à des fonctions appartiennent à un espace géographique. C'est ce qu'on appelle le népotisme. Et donc, quand dans un cabinet, comme vous me voyez là, si vous regardez les personnes qui sont là, vous allez voir que ce sont des personnes qui viennent des différents milieux tribaux, claniques, géographiques, provinciaux, etc. Et Mobutu disait, tu ne mettras pas plus de 2 personnes de ta tribu dans... S'il y en a plus de 3, ça, c'est le tribalisme. Et donc, à cause de cette situation ici, nous avons l'impression que les gens s'opposent sur le fondement de la tribu. Non. J'ai trouvé sympathique M. Martin Fayoulou quand je l'ai rencontré. J'ai apprécié la personnalité. Mais pourtant, moi, je ne suis pas du Bandundu, moi, je suis du Katanga. Qu'est-ce qui nous lie ? Le partage des valeurs. Mais il y a beaucoup d'autres gens avec qui on est très proches sur base des valeurs que nous partageons. Donc, nous devons construire, reconstruire, si vous voulez, la cohésion nationale sur base des valeurs. Nous sommes un peuple, nous appartenons au Congo, nous sommes un. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit en Chiluba, Kuchinu, quoi, Janjula, Weba. Weba, ce n'est pas Weba de ta tribu ou de ton clan. Weba, c'est Congolais. Quelqu'un qui est ton frère congolais, qui a les valeurs, qui a les compétences, tu lui fais confiance. Il nous faut aujourd'hui faire confiance à l'un d'entre nous, quelle que soit sa tribu, mais qu'il soit compétent, qu'il soit honnête, qu'il soit intègre, pour mettre la main sur toutes les ressources que les prédateurs nationaux et internationaux amènent ailleurs, afin de les rendre aux Congolais sous forme d'emploi décent, sous forme de salaire, sous forme d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, sous forme de routes et de sites agricoles, de routes qui désenclavent le pays, sous forme n'est-ce pas, de création d'emplois, etc.
On a fini notre entretien du jour, mais vous allez fixer la caméra, Pasteur Théodore Ngoï. Quel message vous lancez à tous ces Congolais qui vous suivent en ce moment?
Cette élection va déterminer votre avenir pendant les 5 années qui viennent. Ce que vous allez décider quand vous serez dans l'urne va vous revenir. Soit vous choisissez la personne qui a la compétence et qui est honnête, qui ne va pas vous offrir le spectacle des détournements d'hommes aux fonctions publiques qui vont en prison pour avoir détourné, qui ne va pas vous offrir le spectacle d'hommes qui jouissent de ressources, d'hommes qui s'amusent avec l'argent public. Alors, en ce moment-là, vous êtes certain que on va vous protéger. Moi, je vais protéger, c'est ça la démocratie, protéger d'abord l'intégrité du territoire, protéger le Congo avec son patrimoine qui est dilapidé, ensuite protéger chaque citoyen avec son patrimoine, sa liberté. Et je suis Théodore Ngoï, je suis candidat numéro 17. Si vous faites ce choix-là, avec le numéro 17 comme l'arche de l'Alliance, dans Genèse chapitre 8, verset 4, nous allons commencer dans la paix sur la montagne qui s'appelle Jésus de Nazareth, la reconstruction de notre pays. Je vous remercie.
Merci, pasteur Théodore Ngoï. Merci, Michel.
Merci,
présidentielle 2023, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine.
Merci.